Bienvenue dans le troisième épisode de Peer Power, qui est une suite de hors-série du PédagoCast, réalisé en collaboration avec ChangeMe, et qui s'intéresse à la question de l'évaluation par les pairs sous toutes ses formes. Je suis Julien Maurice et je vous propose aujourd'hui un échange avec Coralie Hardier autour de l'importante question du feedback dans l'évaluation par les pairs et qui vous permettra d'appréhender des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Excellente écoute à tous. Alors, bienvenue dans le troisième épisode de Peer Power. Alors, j'ai la chance d'avoir donc avec moi aujourd'hui Coralie Hardier. Alors, bonjour Coralie.
Bonjour Julien.
Alors Coralie, en fait, on souhaitait finalement t'accueillir dans ce podcast, notamment pour parler de l'évaluation par les pairs, hein, ce qui nous anime ici, mais surtout par rapport à la notion de feedback sur laquelle on va peut-être accentuer davantage notre échange. Alors déjà pour commencer, Coralie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, déjà merci Julien de m'accueillir sur ton podcast. Donc, je suis Coralie Hardier, je travaille à Burgundy School of Business. Donc, je suis ingénieure et conseillère pédagogique dans un Learning Lab. Donc, c'est un service de soutien à l'innovation pédagogique au service, au bénéfice des étudiants.
D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est très clair. Alors justement, par rapport à cette question hein, de l'évaluation par les pairs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous mettez en place de manière générale hein, pour commencer, un petit peu voilà, dans le détail hein.
Oui, alors à BSB, on mobilise effectivement l'évaluation par les pairs dans nos pratiques pédagogiques, donc pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a deux méta-analyses qui ont montré que l'évaluation par les pairs améliorait les performances académiques. Deuxièmement, parce que ça répond à nos enjeux d'échelle, dans le sens où dans notre tronc commun, on a environ 400 étudiants. Donc dans ces cas-là, fournir un feedback à autant d'étudiants, c'est compliqué.
Effectivement.
Et c'est là que l'évaluation par les pairs est intéressante. Et
D'accord.
puis, troisièmement, parce que cette méthode permet aussi de former les étudiants à donner et recevoir des feedbacks. Et ça leur sera également utile en entreprise.
Ok, très bien. Alors juste au passage, on mettra d'ailleurs, hein, parce que là tu me parles des deux méta-analyses, hein, je ne les connais pas forcément d'ailleurs, comme ça je vais apprendre aussi des choses. On les mettra en description hein, pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, effectivement, donc ça a été entre guillemets prouvé par la recherche qu'il y a un impact positif, un effet positif sur l'apprentissage. Et juste avant peut-être de passer sur la partie liée au feedback, du coup, si je comprends bien, dans ce que vous mettez en place aujourd'hui, ça va être essentiellement de l'évaluation par les pairs croisés. Vous ne faites pas forcément de l'intra-groupe. Hein.
Si, on fait un peu des deux en fait,
D'accord, donc vous faites
parce qu'on y
également
trouve aussi des implications pédagogiques dans le fait de pour les étudiants de se motiver un petit peu entre eux, d'analyser la contribution de chacun. Donc voilà, on utilise les deux formes.
D'accord, super intéressant. Ok, bah parfait. Alors du coup, justement, pour parler dans le détail cette fois-ci de plus ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire le feedback, est-ce que tu peux je sais pas, me proposer justement une définition par rapport à ce qu'est pour toi un bon feedback?
Oui, alors là, je vais m'appuyer sur un article de 2014 qu'on proposera également dans les notes du
Ouais,
podcast,
super.
qui aborde donc les fonctions, les caractéristiques pardon, du feedback et son efficacité. Donc, le feedback réfère à des informations qui sont transmises d'un émetteur à un destinataire concernant la performance réalisée par le destinataire. Donc, cette performance, elle est comparée avec une performance de référence. Donc souvent, l'émetteur, ça va être l'enseignant et le destinataire, c'est l'étudiant.
Ok.
Et donc, dans le cas de l'évaluation par les pairs, l'émetteur peut également être un étudiant jusqu'à un étudiant également. Et donc,
Ok.
le feedback peut être présenté sous forme de réussite ou d'échec, ou alors d'écart au but, c'est-à-dire le niveau de performance par rapport à l'objectif à atteindre.
D'accord. Et quand tu parles d'un niveau de référence, est-ce que justement dans votre cas à vous, il va y avoir, on va dire, quelque chose sur lequel ils vont se baser quand tu parles de référence, ça va être par exemple le barème, c'est ça peut-être, qui va être très détaillé ou des choses comme ça?
Oui, c'est ce qui est attendu en fait de l'étudiant par rapport aux objectifs pédagogiques, aux objectifs donnés par l'enseignant. Donc,
Ouais.
notamment, je pense à la grille critériée
OK.
qui liste donc la performance à atteindre, le niveau de performance. Et donc, c'est en fonction de cette grille critériée, en fonction des objectifs à atteindre, que la performance effective va être comparée.
OK, très bien. C'est très clair, merci pour ces précisions. Et justement, donc on passe à une autre question hein, liée vraiment à ces notions de feedback. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les apprentissages? Parce que tu as réfléchi également à cette question-là.
Oui, alors en fait, le feedback, c'est un des quatre piliers de l'apprentissage qui ont été mis au jour par Stanislas Dehaene, donc, qui est un neuroscientifique. Donc, il a mis au jour l'attention, l'engagement, la consolidation et donc le feedback comme étant des piliers de l'apprentissage. En fait, faire des erreurs, c'est indispensable pour apprendre. Si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'on a déjà appris, en fait. C'est qu'on sait ou on sait déjà faire. Et pour que l'erreur, elle permette l'apprentissage, il faut d'abord savoir qu'on fait une erreur. Il faut savoir aussi dans quelle mesure. Et c'est là que le feedback intervient. Donc, c'est le signal d'erreur qui va permettre d'ajuster la performance pour qu'elle corresponde mieux à la performance de référence.
D'accord.
Et pour que le feedback soit efficace, il faut qu'il soit bien formulé et aussi qu'il soit bien traité par le destinataire.
Et c'est vrai que tu vois, quand j'entends cette définition-là et cette approche, effectivement, moi je me rends compte, je ne sais pas si c'était ton cas, mais moi j'ai fait donc la fac notamment. Et c'est vrai que bah, tu vois, on avait des examens et on recevait bah, finalement les résultats vraiment longtemps après. On n'avait même pas d'ailleurs la copie, il fallait demander la copie pour vraiment, si on le souhaitait, entre guillemets.
Oui.
Et c'est vrai que du coup, bah, quelque part, l'évaluation, ça aurait été simplement au fait bah, d'avoir une note en quelque sorte, mais il n'y avait pas cette notion de progression par rapport à ce qu'on avait fait, parce qu'il n'y avait pas du tout de feedback. Et je pense que tu l'as dit aussi, hein, c'est le fait que ce soit aussi quelque chose d'assez immédiat qui intervient, si possible, sur un temps très court par rapport à l'action qu'on va mettre en place. Et tu vois, si on prend l'exemple, un exemple qui peut être, on va dire, parallèle à la pédagogie, par exemple le sport, tu vois, typiquement, bah les athlètes, ils ont tout de suite le feedback de ce qu'ils font, c'est ce qui les fait progresser. J'avais vu de pas mal de reportages là-dessus aussi, où aujourd'hui, on est beaucoup dans les data aussi au niveau du sport. Et c'est vrai que je trouve qu'on pourrait s'inspirer, je trouve, de ces pratiques-là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais par rapport à la pédagogie aussi, ce côté un peu instantanéité qui nous permet tout de suite de voir bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et sur les points sur lesquels on est peut-être un peu défaillant. Et je pense que voilà, c'est vrai que moi, en tout cas en tant qu'étudiant, je me souviens que c'est quelque chose bah, qui m'a manqué, je pense, ce côté feedback. Et souvent, même je parle là de la fac, mais souvent, même que ce soit au collège ou au lycée, souvent, bah, je recevais la note et c'est terminé, quoi. Je mettais la copie dans le sac et puis je faisais pas forcément les exercices. Toi, j'étais pas forcément studieux comme peut-être certains l'étaient à refaire peut-être les exercices, à vérifier sur quoi on a buté. Alors que si ça avait été formalisé à ces époques-là, entre guillemets, quand j'étais étudiant, avec peut-être un retour, une correction par mes pairs, des feedbacks, etc., j'aurais peut-être progressé davantage. Bon, voilà, c'est juste une réflexion que j'avais, mais je pense que c'est vraiment un changement de paradigme au niveau de la pédagogie que, effectivement, de mettre en place ce genre de pratique auquel je crois beaucoup et toi aussi, en tous les cas. Ok, très bien. Je ne sais pas si tu avais des remarques hein, par rapport à ce que je viens de dire, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de penser au passé parfois par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et que ça évolue surtout. Tu
C'est vrai
disais?
qu'on est plus dans l'évaluation certificative, donc celle qui vient sanctionner la validation du module, du diplôme, etc. Mais pour apprendre plus efficacement, pour mesurer la progression, les évaluations qu'on appelle formatives rentrent en scène dans ce sens-là. Donc, les évaluations formatives, on peut fournir des notes, mais le plus important, donc des notes qui ne compteront pas, entre guillemets, mais le plus important, c'est de fournir un feedback pour s'assurer de la progression, en effet.
Effectivement. Et puis même dans le formatif, on peut très bien avoir des notes qui vont compter aussi. Enfin, faire en fait, du sommatif tout au long du module, par exemple, c'est des choses qui peuvent se faire. Après, je ne sais pas comment vous le pratiquez chez vous, mais c'est vrai qu'il est conseillé de ne pas forcément non plus dépasser 30%, je crois, de la note. Hein. C'est des bonnes pratiques, entre guillemets, par rapport à l'évaluation par les pairs. Enfin, et ça doit être, on doit mettre en place d'autres types d'évaluation, peut-être plus individuelles, etc. Mais en
Oui,
tout cas,
tout
oui,
à fait.
ça peut aussi être l'idée, effectivement. Ok, très bien. Alors, par rapport toujours à cette notion eh bien, de feedback, je voulais que tu nous donnes un petit peu les caractéristiques qui, selon toi, font qu'un feedback va être efficace. On en a parlé un petit peu d'ailleurs dans cet échange aussi juste avant.
Oui, donc je vais me baser notamment donc, sur cet article aussi de 2014, puisqu'elle regroupe des méta-analyses donc sur les caractéristiques et fonctions du feedback. Et comme on vient de le dire, effectivement, c'est mieux si le feedback est fourni à bref délai après l'évaluation. Et ça va dépendre notamment de le degré d'expertise de l'étudiant. Donc, moins l'étudiant est expérimenté, moins il en sait sur le sujet, et mieux c'est de fournir des feedbacks immédiats. En revanche, pour des tâches qui sont plus créatives ou complexes, sur lesquelles éventuellement l'étudiant a plus de connaissances, là, le feedback différé peut être plus efficace.
D'accord, intéressant.
Voilà, donc ça c'est une première chose. Dans un second temps, effectivement, le feedback gagnerait à être clair. Donc, il doit expliquer pourquoi l'étudiant a réussi ou échoué, donc par rapport aux objectifs dont on parlait tout à l'heure, par rapport à la performance de référence qui est attendue par l'enseignant et par rapport aux critères d'évaluation qui ont été présentés à l'étudiant.
Et c'est vrai que sur ce point-là,
Ensuite.
je me permets sur ce point-là, c'est vrai que d'ailleurs, bah justement par rapport à l'outil qu'on utilise et que tu utilises aussi dans le Challenge Bee, je sais qu'il y a des efforts de développement qui sont faits pour justement qu'il y ait une
Oui.
analyse du feedback pour justement vérifier qu'il est en cohérence avec bah, la note qui est donnée, qu'il soit aussi relativement clair, que ce soit pas juste c'est bien ou à
Oui.
refaire, peu importe. Et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est un point que l'outil peut aussi favoriser aussi dans le design, on va dire, de l'outil. Et ça, c'est quelque chose effectivement d'intéressant à préciser.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le feedback par rapport au feedback. Donc,
Le
comment
back
le feedback.
feedback, comme on dit, ouais.
Voilà, exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, former l'étudiant à formuler et à recevoir un feedback, c'est aussi un de nos objectifs. Et en ce sens, c'est vrai que l'application de Challenge Me permet de le faire également.
Ok,
Donc,
est-ce que tu avais d'autres, entre guillemets, bonnes pratiques pour qu'il soit efficace, ce feedback?
oui, donc le feedback, il doit être centré sur les bonnes cibles. Donc, c'est-à-dire qu'il doit être centré sur la prestation, donc la performance d'apprentissage de l'étudiant, et sur les stratégies que l'étudiant a employées pour atteindre la performance. Il ne faut pas que le feedback soit centré sur la personne, donc par exemple son intelligence ou ses capacités.
Alors après, est-ce que là, on va effectivement, parfois, on va juger de compétences dures, entre guillemets, dures, j'entends matière, discipline, et parfois, on va juger de compétences plus des soft skills. Donc, dans ces cas-là, pour le coup, voilà, là, dans ce que tu dis, c'est que ça doit être formulé de telle manière à ce que ce soit clair, net et précis, qu'on évalue, parce que parfois, on peut évaluer non pas l'intelligence, mais peut-être le caractère, tu vois, si la personne est communicante, elle est collaborative, si elle est ponctuelle, tu vois, c'est des choses un peu personnelles parfois aussi qu'on va évaluer. Mais voilà, l'idée, donc, quand tu dis centrer sur la bonne cible, c'est qu'on le précise bien, peut-être, je pense surtout à l'intragroupe, hein, dans ce cas-là, c'est que voilà, on va quand même cibler sur des soft skills pour le coup, mais effectivement, il faut bien le préciser, que ce soit la bonne cible comme tu le précises là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour les soft skills, c'est peut-être un peu plus particulier. Alors, ce n'est pas l'intelligence qu'on va, même si on pourrait voilà, avoir des débats sur ce que c'est que l'intelligence. Il y en
Ouais.
a qui vont dire ben, il y a l'intelligence sociale, ce genre de choses. Donc là, ça recoupe un petit peu les soft skills. Mais en tout cas, c'est de viser finalement ce que la personne peut faire mieux et pas dire ne pas rester sur un esprit d'intelligence qui est ce qu'elle est et qu'elle ne bougera pas. Donc, c'est important de le prendre en compte et puis de se centrer plus sur ce qu'on observe que sur la personne, finalement.
Ouais, finalement d'être objectif, je dirais, dans l'évaluation et pas forcément. Voilà, je vois très bien ce que tu veux dire,
Le plus
effectivement. Ouais.
possible, oui. Ce qui n'est pas si évident parce qu'il y
C'est
a beaucoup
vrai.
de biais qui rentrent en jeu,
C'est vrai.
mais en effet, c'est ce qu'on vise.
Tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu avais d'autres points par rapport à cette question d'efficacité?
Oui, alors je pourrais en lister trois supplémentaires. Le feedback, ça ne devrait pas être vrai ou faux. Ça devrait être constructif, donc indiquer le niveau de performance atteint et surtout encourager l'étudiant à persévérer en lui indiquant comment il peut améliorer son travail, comment il peut améliorer ses stratégies dans l'optique d'atteindre la performance adéquate. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le feedback devrait être également équilibré, donc pointer autant les points positifs que les besoins d'amélioration. Et enfin, être sélectif, donc comporter deux ou trois choses que l'étudiant peut améliorer. Après, ça va aussi dépendre du degré d'expertise, là encore, de l'étudiant, c'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas ou peu de connaissances préalables sur un sujet donné. C'est peut-être mieux de fournir un peu plus de feedback. À ce moment-là.
Ok, alors on pourrait se dire comme ça, et c'est super intéressant, mais que c'est très complet, on va dire que ça peut être assez complexe, on va dire, de faire un feedback qui répond à tout ce cahier des charges, en quelque sorte. Et je voulais savoir, vous, à BSB, enfin c'est comme ça qu'on prononce peut-être le nom de
Oui.
l'école, est-ce que vous formez, enfin comment vous faites pour justement former vos étudiants? Est-ce qu'ils vont vraiment répondre à toutes ces caractéristiques quand ils vont faire des feedbacks la plupart du temps? Voilà, comment est-ce que vous procédez au niveau de la stratégie pour faire en sorte qu'ils répondent à ce cahier des charges?
Alors, on est en plein chantier sur ce point-là. Donc, effectivement, ces recommandations ont été transmises aux enseignants et on cherche à fournir également aux étudiants et donc que les enseignants aussi puissent fournir ces bonnes pratiques à leurs étudiants, mais peut-être aussi directement via l'application Challenge Me avec des recommandations. Et il me semble que c'est aussi en cours de construction sur ce point-là, d'avoir des,
Avec
comment
l'IA,
dire,
effectivement, avec l'IA, d'avoir
voilà, des bonnes
des...
pratiques, voilà, des conseils pour formuler
Ouais,
un
c'est ça.
feedback plus efficace.
Ok, très bien. Bah écoute, parfait, c'était en tout cas super, super clair, hein. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est agréable aussi d'avoir, parce que pour les auditeurs, on a un podcast qui est tout préparé et c'est vrai que c'est agréable pour moi aussi, du coup. Et juste pour finir, est-ce que tu avais des choses à rajouter un petit peu par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire?
Alors, le feedback, c'est un sujet très vaste, et puis effectivement, je ne suis pas allée dans le détail, mais dans l'article qu'on mettra à disposition, il y a des peut-être des nuances, voilà, en fonction de certains facteurs. Parce que le contexte fait forcément changer. Les choses pour les apprentissages, pour l'efficacité des dispositifs qu'on met en place. Mais en tout cas, si je devais résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, donc le feedback, c'est l'action par un émetteur de transmettre des informations à un destinataire concernant sa performance, donc qui est mise en comparaison avec une performance de référence. Donc le feedback est un des piliers de l'apprentissage, c'est pour ça que c'est aussi important de le prendre en compte, puisqu'il représente le signal d'erreur qui va permettre à l'étudiant d'ajuster sa performance, c'est-à-dire que s'il ne sait pas qu'il fait fausse route, entre guillemets, et dans quelle mesure, il ne peut pas ajuster sa performance, donc ne peut pas atteindre la performance de référence. Et donc, comme on l'a vu, effectivement, il y a certaines bonnes pratiques à respecter. Donc, il faut qu'ils soient clairs, constructifs, immédiats, etc., dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que l'objectif, en fait, à terme, de fournir des feedbacks, donc dans une perspective d'autonomisation, c'est que les feedbacks externes, puisque là, on n'a parlé que de feedbacks externes qui proviennent d'une personne extérieure à soi, que ces feedbacks-là, finalement, ils soient suffisamment intégrés par l'apprenant pour qu'ils deviennent ce qu'on appelle des auto-feedbacks, c'est-à-dire qu'on est suffisamment capable de s'auto-évaluer au sujet de ses performances d'apprentissage grâce au feedback qui nous ont permis de nous ajuster progressivement et de devenir autonomes dans l'évaluation de nos performances.
D'accord. D'ailleurs, par rapport à ça, je crois qu'il y a aussi des fonctionnalités. Bon, évidemment, sur ChangeBee, c'est justement ce qu'ils développent, mais il y a d'autres outils qui vont le faire aussi. C'est de faire une compilation justement des différents feedbacks qu'un étudiant aura obtenus
avec différents du coup correcteurs entre guillemets, hein. Souvent c'est trois, ça peut être moins, ça peut être plus, et qu'il ait un petit résumé de tout ça. Alors peut-être que ça peut répondre un petit peu à ce que tu dis là, c'est-à-dire il va avoir une vision un peu 360 sur ce qu'il a fait avec différents avis, mais synthétisés. Et ça, effectivement, ça peut ensuite développer chez lui cette capacité à s'auto-évaluer et à comprendre sur quoi il doit progresser, etc. Effectivement, super intéressant.
En fait, ça me fait penser au portfolio, le
Ouais.
portfolio des compétences. Donc, effectivement, l'étudiant, il suit sa progression de sa première année jusqu'à sa dernière année. Et puis, les feedbacks sont essentiels dans le cadre de ce portfolio. Alors, des feedbacks, lui, c'est un petit peu comme l'analyse finalement de sa pratique aussi. Quand je vais analyser ma pratique, je vais prendre en compte moi ce que je pense de ce que j'ai fait et aussi ce que les autres ont pensé de ce que j'ai fait. Ce qui permet d'avoir, comme tu disais justement, une vision un peu 360 et puis de mieux s'ajuster finalement.
Et de voir si on est en si justement ce qu'on pense de soi se reflète sur ce que pensent les autres. Parfois, on a une vision aussi biaisée de soi-même, et ça peut être intéressant de mettre en confrontation ces deux visions pour avoir une vue plus objective de ce qu'on est, hein, concrètement. Ok, bah super. Et d'ailleurs,
Effectivement.
ça se voit aussi, ça, dans les bilans de compétences. Je sais que j'avais un ami qui avait fait un bilan de compétences comme ça. Une des méthodes, hein, en fait, en gros, il lui avait demandé de cibler différentes personnes qu'il connaissait, et on avait tous reçu un message pour donner notre point de vue sur cette personne, sur différentes questions. Apparemment, c'était anonymisé. Et je trouvais ça intéressant, en fait, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, mais je pense qu'on pourrait être surpris aussi, peut-être, du résultat qu'on a sur comment les gens nous perçoivent, sur ce qu'on émane, entre guillemets, par rapport à ce qu'on
Mais par
pense,
rapport à ce que je pense.
entre guillemets, émaner. Ok, bah écoute, en tout cas, super intéressant, Coralie. Merci, hein, pour tout ça, pour tous ces détails. Et bah, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, les auditeurs vont pouvoir avoir une vraie bibliographie, pour le coup, super détaillée par rapport à des articles de recherche. Donc, on mettra en lien donc les deux méta-analyses dont tu as parlé. Il y aura également l'article, hein, de N, donc sur apprendre les talents du cerveau, le défi des machines.
Oui, c'est de là que
Donc,
proviennent les quatre piliers de l'apprentissage, en
voilà, c'est
fait.
ça. Et puis, les caractéristiques et fonctions des feedbacks dans les apprentissages également de Bosc-Minet. Voilà, bah écoute, comme ça, ce sera très complet. Je te remercie encore, Coralie. N'hésite pas si tu avais quelque chose à rajouter ou si pour toi, c'est OK.
Merci à toi. Ben, pour moi, c'est bon.
OK, bah génial.
Je
Bon, en tout
pense avoir fait le
cas,
tour.
génial. Bah, merci encore, et puis merci aux auditeurs, et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Pierre Power.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Pierre Power, donc réalisé en collaboration avec ChallengeMe et sa solution d'évaluation par les pairs. Tous les liens sont en description et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast autour de vous. C'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.